Vous écoutez RTL.
Avec nous en studio ce matin, Juliette Morillo, qui avec Dorian Malovitch vient de publier chez Robert Laffont Le Monde selon Kim Jong-un. Madame Morillo, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être un dimanche matin comme ça au micro de RTL. Au début des Jeux Olympiques, quand Kim Jong-un a invité le président sud-coréen à venir à Pyongyang, chacun a pu penser qu'on allait plutôt vers la détente et que le spectre de la guerre atomique s'éloignait. Faut-il aujourd'hui déchanter, 15 jours après seulement ?
Alors, déchanter peut-être pas, mais il est évident que c'était une trêve olympique qui va encore durer un petit peu le temps des Jeux paralympiques, donc encore jusqu'à mi-mars. Mais après, inéluctablement, les tensions vont reprendre sur la péninsule pour la simple raison que les véritables tensions ne se situent pas entre Pyongyang et Séoul, mais entre Pyongyang et Washington. Et finalement, le dossier de base, qui est le fait que l'arme nucléaire est entre les mains du régime nord-coréen, et c'est ce qui fâche la communauté internationale et Donald Trump, ce dossier n'a pas été traité. Et la Corée du Nord ne dénucléarisera pas, et ça, Trump ne peut pas l'admettre.
Est-ce que dans ce monde coréen où les symboles sont importants, le fait que le Nord ait envoyé la sœur du dictateur à la cérémonie d'ouverture et on voit aujourd'hui en clôture un général qui est un dur à cuire, est-ce que ça veut dire qu'entre-temps, ça s'est raidi ou pas ?
Non,
c'est non symbolique.
Je dirais que c'est assez amusant parce que c'est très fin finalement. Parce que lors de l'ouverture, ils ont envoyé la sœur, en effet, Kim Yo-jong, la tout charme de la Corée du Nord, c'est un peu du soft power,
oui,
pour cette fameuse paix. Là, en échange, vous avez Ivanka Trump,
oui,
qui vient, c'est un coup de soft power des États-Unis. Et puis, à l'ouverture, les Américains avaient envoyé Mike Pence, qui venait armé plus tôt, il n'a pas voulu saluer la délégation nord-coréenne. Il venait avec plutôt des revendications des réfugiés nord-coréens, donc il ne venait pas dans l'idée de la paix. Ils envoyaient donc un dur de dur. Et là, en échange, c'est inversé. La Corée du Nord envoie Kim Jong-chol, qui est aussi un général, un dur de dur. Mais en même temps, ça montre que ce n'est pas du bluff que la Corée du Nord veut véritablement, finalement, apaiser les tensions. Elle en a besoin aussi.
Alors, elle veut peut-être apaiser, mais comme vous le disiez, pas question de renoncer à son programme nucléaire. C'est une puissance nucléaire. Et avant-hier, Trump a annoncé de nouvelles sanctions économiques. Il a dit, et si ça ne marche pas, on passera à la phase 2 et ça va faire très mal, etc. etc. Bon, écoutez, est-ce qu'il va y avoir la guerre en Corée là-bas, dans la péninsule ou pas ?
Les sanctions, elles ne marcheront pas parce que, vous savez, les Coréens du Nord sont préparés, c'est un énième train de sanctions. Alors, est-ce qu'il va y avoir la guerre ? Trump, on dit, a été partisan de ce qu'on appelle le bloody nose, c'est-à-dire une frappe sur la Corée du Nord ciblée.
Oui.
Mais il a même essayé de trouver d'ailleurs un ambassadeur pour la Corée du Sud parce que le poste est vacant.
Un ambassadeur américain.
Un ambassadeur américain. Et le poste est vacant depuis Obama. Et il avait trouvé un monsieur qui s'appelle Victor Cha, qui est un hawk, un faucon. Et même celui-ci, qui pourtant est un peu un va-t-en-guerre, a dit qu'il ne pouvait pas assumer des frappes sur la Corée du Nord parce qu'il ne pouvait pas protéger la Corée du Sud ni la communauté américaine qui habite en Corée du Sud et qu'il était contre.
200 000 Américains en Corée du Sud.
Voilà. Donc, finalement, même dans son propre camp, on sait qu'une guerre serait catastrophique. Ceci dit, on n'est pas à l'abri d'un dérapage. Et il faut savoir qu'après les Paralympiques, je reviens un petit peu à votre première question, vous allez avoir les manœuvres militaires américano-sud-coréennes qui vont probablement reprendre.
Oui.
Et si elles reprennent, les Nord-Coréens vont reprendre de facto leurs essais de tir de missiles balistiques et nucléaires.
Alors, tout de même, bon, Trump étant ce qu'il est, il n'a pas totalement tort en disant que ça fait 30 ans que ses prédécesseurs ont laissé courir le dossier nord-coréen, qu'on a loupé des opportunités à l'époque de Clinton, où il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Ça va devenir quoi, ce truc-là ? Est-ce que le Sud et le Nord veulent absolument se réunifier et sous quelles conditions ?
Alors, ça fait 30 ans en effet que les Américains ont tout laissé passer, mais aussi se sont mis la tête dans le sable comme la communauté internationale, puisque depuis 2006, la Corée du Nord procède à des essais nucléaires.
Mmh,
et pour le coup, là, elle communique beaucoup sur ces essais nucléaires. Et on n'a pas voulu le voir venir. Et il y a probablement une volonté derrière ça. C'est-à-dire que si on s'est mis la tête dans le sable, c'est que tout le monde finalement personne n'a intérêt à ce qu'il y ait une véritable réunification de la péninsule. Même les Américains, qui, face à l'énorme montée en puissance chinoise, puissance économique mondiale, puissance militaire en mer de Chine méridionale, les Américains n'ont pour simple raison de se trouver dans cette partie du monde. Quand je dis partie du monde, je pense à la Corée du Sud,
oui.
Je pense à Okinawa, je pense aux Philippines. La seule raison qu'ils ont d'être là-bas, c'est finalement cette Corée du Nord diabolisée. L'ennui, c'est qu'elle a l'arme nucléaire. Et puis, pour répondre à la seconde partie de votre question, qui veut la réunification ? En Corée du Sud, on n'en a plus vraiment envie. C'est-à-dire, la vieille génération, elle voit la Corée du Nord, elle en a la nostalgie, mais ils sont vieux, ils voient la Corée du Nord comme un ennemi. La jeune génération, elle pense à ses problèmes économiques, aux problèmes de chômage, vieillissement de la population. La Corée du Nord, c'est presque un pays étranger. Ils n'en ont pas peur, paradoxalement.
Oui.
Mais la réunification, c'est un beau rêve, mais ils n'y croient pas et ça coûterait trop cher. Au Nord, en revanche, la réunification, ils jouent sur la corde sensible, ce qui leur permet d'ailleurs, en dialoguant directement avec Séoul, de marginaliser un petit peu les États-Unis. C'est pas mal joué. Mais eux, ils envisageraient une sorte de fédération, c'est-à-dire une péninsule de régime.
Juste une dernière question, en sachant que le président sud-coréen a dit il y a 4 jours qu'il n'ira pas à l'invitation de Pyongyang, qui avait été formulée au début des Jeux Olympiques. On imagine, tous les romanciers y pensent, un commando qui tue Kim Jong-un à Pyongyang. Voilà, il est abattu, il se passe quoi ? Ça change rien ?
D'abord, c'est extrêmement difficile.
Ok, mais on imagine, ils y arrivent.
Bah, ça dépend qui on met.
Ça dépend qui on met
là-bas. Si c'est quelqu'un qui est choisi par la Chine, de façon à pacifier, ça pourrait être une solution intermédiaire. Mais c'est vraiment improbable. Vous dites ils ont réussi pour Bin Laden, mais parce que vous aviez des Américains sur le terrain. Un Américain en Corée du Nord ou un espion en Corée du Nord. Mais on peut pas. La population est homogène. Donc c'est un véritable trou noir de l'espionnage international. On ne peut pas s'infiltrer en Corée du Nord. Et c'est bien là leur force.
Merci infiniment. Juliette Morillo, qui signe chez Robert Laffont avec Dorian Malovitch, Le Monde selon Kim Jong-un. Tout ce que vous avez dit donne envie de foncer sur votre bouquin et de l'éplucher jusqu'au bout. Merci beaucoup, madame. Je vous souhaite un très bon dimanche.